Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue en public au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma avec les astronautes de la critique. J'ai nommé Charlotte Lipinska de Vanity Fair avec Xavier Le Herpeur de 7ème Obsession et du Mylène Farmer Club avec Pierrot, Pierre Murat de Télérama, Jean-Marc Lalanne des Inrecuptibles. On parle ce soir de First Man de Damien Chazelle, mais également de trois films qui étaient à Cannes, signés Lars von Trier, Lucas Dont et Nadine Labaki, et de trois films réalisés par des acteurs. Je veux parler de Roman Boringer et Philippe Rebaud, Mélanie Laurent ainsi que Michel Blanc. Dans le courrier de la semaine, à propos de Climax de Gaspard Noé, Clément de Paris est affligé. Il n'est pas le seul. Au lieu de faire du cinéma avec des corps, Noé filme de façon interminable des acteurs absolument nullissimes, improvisant des dialogues dignes d'un téléfilm porno. Téléfilm porno, il n'y a pas tant de téléfilms porno. Hein.
Il y en a moins.
Il y en a moins.
Ouais, hein. On est en manque.
Ça n'est ni excitant, ni même choquant. Climax est un mauvais nanar. Paresseux qui se prend au sérieux. Pascal R, lui, est ambigu. Le Climax est horrible, mais curieusement impossible pour moi de dire que je ne l'ai pas aimé. Peut-être ai-je attendu en vain un retour sur l'ambiance du début, mais c'est trop en demander à Gaspard Noé. Quant à André Rossier de Genève, en Suisse, ben lui, il a aimé s'y retrouver dans ce film. Ayant vécu dans une ancienne vie des soirées comme celle de Climax, j'ai admiré la capacité du réalisateur à retranscrire la jouissance pure de la musique et de la danse et le malaise paranoïaque, les pulsions mortifères que font naître ces nuits sous influence. Quant à vous, continuez de nous régaler de vos critiques aigres douces. Je vous aime. Voilà, ma merci. Avis très, très partagé sur Un peuple et son roi de Pierre Scheler. Pierre Cuzor a beaucoup aimé, lui, ce très beau film extrêmement mis en scène. Stéphane Aznar dit que Pierre Scheler a une direction d'acteur absolument impeccable et une maîtrise totale de sa mise en scène, avec de très beaux moments de cinéma. Pour Thomas de Bordeaux, ce qui est passionnant dans le film de Scheler, c'est de voir comment le peuple a très vite été dépossédé de sa révolution. Un film très actuel, quand on voit comment aujourd'hui nous nous débattons avec notre monarchie présidentielle, notre désir de l'homme providentiel, notre culpabilité à avoir tué ce roi que nous aimions et qui pourtant nous a trahis. Et puis, il y a surtout beaucoup de gens qui n'aiment pas. Alors, il y a Michel Théry qui trouve ce film interminable et d'une consternante lourdeur, un fourre-tout sans rythme, parsemé de scènes inutilement longues et indigestes. Prosper Constantin de Bolbec aurait voulu que le masque soit d'une intransigeance à la Robespierre pour un peuple et son roi, qui est une purge, au propre comme au figuré. J'ai d'ailleurs quitté la salle au bout de 30 minutes. Arnaud Sanquer trouve que Un peuple et son roi ne parvient jamais à dépasser son statut de film dossier de l'écran. C'est confus, lourd, mal joué, si on accepte Adèle Haenel, Céline Salette et Laurent Lafitte, qui, heureusement, n'a pas été, évidemment, coupé au montage. David Blunier de Genève nous écrit « Mon masque, qu'as-tu pu trouver à un film servi par des acteurs qui cabotinent ?» Après une première heure de balourdise, le film bascule dans l'ennui et le spectateur devient aussi résigné que le roi qui, attendant son sort, mange des ailes de poulet d'un air las. Et enfin, Nicolas B. de Vincennes, alors lui est très très déçu. La prestation de Louis Garrel se résume, qui joue Robespierre, je vous le rappelle, se résume à lire un texte avec un peu plus de conviction et une perruque grise. Ma grand-mère pouvait le faire aussi bien et sans perruque. Mais le climax, c'est l'apparition fantomesque des anciens rois français. Même les tuches à l'Élysée n'avaient pas osé faire apparaître René Coty, le général de Gaulle et Georges Pompidou dans les appartements privés du palais. Et je trouve bien clément mon masque de réclamer un second opus. Ressaisis-toi si tu ne souhaites pas te retrouver sur l'échafaud de mes podcasts à supprimer. C'est un peu inquiétant. Allez, on commence avec Girl, le premier long métrage du belge flamand Lucas Dont, 26 ans, surnommé à Cannes, où on aime bien les surnoms, le Xavier Dolan flamand, un film transgenre présenté dans la sélection Un certain regard, qui lui a valu de recevoir le prix de la Caméra d'Or, avec un jeune étonnant qui s'appelle Victor Polster, dont j'ai appris depuis qu'il était élève au Ballet d'Anvers, et qui est dans le rôle de Lara, une adolescente blonde de 15 ans, qui est née de sexe masculin et qui s'impose une discipline très stricte pour devenir danseuse étoile. Elle vit avec son père, qui d'ailleurs est formidablement compréhensif, je trouve, avec un frère de 6 ans. On ne sait pas ce qu'est devenue la mère. Et elle attend, en scotchant son sexe sous son juste au corps, l'opération qui fera d'elle vraiment une fille. J'ai trouvé ça à la fois très noir, comment dire, et très lumineux. Et c'est évidemment un premier long métrage qui a marqué ce dernier festival de Cannes, Jean-Marc ?
Oui, bah, c'est un film vraiment très très réussi. Ce qui est impressionnant, c'est vraiment sa maîtrise formelle, son sens du récit. Il y a quelque chose dans le rythme qui est soutenu tout le temps. Et tu disais que le père était extrêmement compréhensif, et c'est ça qui est vraiment beau. C'est-à-dire qu'il y a un déplacement des enjeux. Souvent, les fictions sur des minorités montrent comment l'acceptation doit se faire contre l'extérieur, contre la famille, contre l'institution. Alors que là, ce qui est frappant, c'est que cette jeune fille trans, en fait, est acceptée par sa famille, est acceptée par son école de danse, mais elle hérite de représentation du corps et du genre archaïque, très ancienne. Elle se débat avec ça et donc le film déplace le conflit sur quelque chose d'extrêmement intime et elle se débat contre elle-même. Et de façon vraiment très très sensible, le film réussit à nouer une relation d'empathie entre le spectateur et le plus profond de cette jeune fille. On ne la quitte pas, la caméra est vraiment au plus près d'elle tout le temps. Et moi je trouve vraiment le film bouleversant. Peut-être à une réserve près, c'est que, sans révéler la fin, il y a quelque chose de très violent à l'issue du film qui se déroule. Et j'ai l'impression qu'à la fois le film s'achemine vers ça, parce que c'est vraiment son enjeu, et qu'une fois que ça advient, il ne sait plus trop quoi en faire. Il y a peut-être un défaut de résolution, à mon avis. Mais malgré cette légère réserve, je trouve que le film est très impressionnant.
Alors, si on doit parler des épilogues de pas mal de films de ce soir...
Oui, c'est vrai. Oui. Il y a souvent des problèmes de résolution, je suis d'accord.
Il y en a certains qui sont...
Mais je pense vraiment que c'est probablement le film le plus abouti, le plus impressionnant de la quinzaine.
Puis encore, c'est Victor Polster.
Et l'acteur est génial ici.
Il est incroyable. Pierre ?
Oui, tout à fait d'accord. Je l'avais un tout petit peu moins aimé à Cannes, je ne sais pas pourquoi. J'avais trouvé...
Mais t'es toujours de mauvaise humeur à Cannes.
Mais quelquefois je suis de mauvaise humeur et quelquefois de trop bonne humeur. Alors ça s'annule. Non, et là je l'ai revu et c'est vrai qu'il y a une vraie mise en scène qui est belle. Bon, il abuse un tout petit peu de mouvement de caméra à l'épaule pour filmer la danse, mais on lui pardonne parce que c'est pour montrer la fébrilité, la dureté. Voilà. Et tout ce qui est sur l'évolution de, par exemple, le fait que la fille ne sache pas exactement si elle est attirée par les garçons, par les filles, le fait qu'elle aille chez son voisin, et la scène est très très belle, de premier émoi sexuel en quelque sorte, qui se passe pas très 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 bien. Et le personnage du père me paraît en effet central parce que, bien sûr, elle suit son chemin. Et c'est dur, car les camarades, ces petites camarades, ne l'épargnent pas tout le temps. Quelquefois, elles sont plus gentilles, mais elles ne l'épargnent pas. Mais le père est absolument formidable. C'est presque trop, et en même temps, il est tellement bouleversant de compréhension, de tendresse, ça fait vraiment
c'est tellement mieux que le père répressif qu'on imagine dans la plupart des fictions.
Mais voilà, c'est ça. Donc je trouve que vraiment, c'est un héros, comme on en faisait dans le grand cinéma, même américain, où il y avait une espèce d'humanité qui... Et elle bute, et il se prend quelquefois plein la gueule en même temps, et il continue à la défendre, et je trouve que grâce à lui, le film devient vraiment quelque chose de très très beau.
Alors, qu'en penses-tu, Charlotte ?
Moi aussi, je suis comme mes camarades, j'ai été à la fois éblouie et très émue par le film. Et vous parliez de la famille, moi ce que je trouve très beau, c'est qu'on montre cette famille où la mère est absente, on ne sait pas pourquoi ni comment. Qu'elle est partie, est-ce qu'elle est décédée, on ne sait pas. Et cette jeune fille, Lara, qui est élevée par son père, donc cette famille sans mère, est montrée comme une famille qui n'est pas dysfonctionnelle. Et ça, c'est extrêmement rare au cinéma qu'on montre une famille sans maman, et ça n'est pas un problème, ça n'est pas un sujet, ça ne crée pas de tension. Effectivement, le rôle du père est d'une grande douceur, d'un accompagnement avec sa fille extrêmement émouvant, et on va le citer quand même, Harry Vorthalter, parce que c'est vrai que Victor Polster est la grande révélation du film, donc ce jeune acteur qui joue Lara, mais lui aussi le comédien qui joue père est absolument formidable. Et ce que je trouve assez incroyable, c'est que le film est empreint d'une grande douceur, d'une grande délicatesse. Il y a beaucoup de pudeur et en même temps, il ne cache rien des souffrances intimes de cette jeune fille, des souffrances corporelles donc qui sont liées et à son activité de danseuse, de ballerine. Voilà, danser sur des pointes, ça fait mal. En plus de sa difficulté à assumer son corps en devenir. Et le film en ça est extrêmement bouleversant. Après, je suis d'accord avec Pierre sur les scènes de danse, elles sont peut-être un peu répétitives. Surtout, il n'arrive pas à renouveler la manière de les mettre en scène. Donc, c'est tout le temps filmé en plan américain, c'est un peu répétitif.
Certainement dû au fait. C'est pour montrer aussi ce qu'est le travail, qui est en plus le vrai travail de ce comédien qui est vraiment au ballet d'Anvers.
Il est au ballet d'Anvers, sauf qu'il ne danse pas sur pointe et que là, clairement, on le voit peu danser sur pointe parce que c'est difficile. Mais c'est un grand film.
Moi, j'ai vu Xavier danser sur pointe, il n'y a aucun problème.
Au concert de Mylène Farmer, ouais. Oui. Et il n'a vraiment pas volé la caméra d'or. Non, c'est vraiment un film à ne pas rater.
On va faire court, c'est magnifique, c'est le meilleur film de cette soirée, de la quinzaine.
C'est pour ça que j'ai voulu commencer par ce film.
Non, mais c'est une pure merveille. Moi, je suis pas d'accord avec vous sur les scènes de danse parce qu'elles sont extrêmement bien découpées sur ce qu'il essaye de montrer. C'est-à-dire un corps contre lequel il faut lutter. C'est quand même toute l'histoire du film. C'est comment se réconcilier avec un corps qui vous échappe, qui n'est pas celui que vous souhaitiez, qui effectivement contrarie un tout petit peu ce qu'on va demander de vous en tant que danseuse. La grande force du film, et Jean-Marc l'a cité, c'est qu'on n'est pas dans le parcours d'un garçon qui veut devenir une fille. C'est fait, c'est acté, il est en traitement, il est en transition, tout se passe bien, sauf que effectivement, il y a conflit entre son désir de devenir femme et désir de devenir danseuse parce que les traitements qu'on lui inflige ne sont pas compatibles avec l'exigence de son métier de danseuse. Mais c'est en termes de cadrage, de découpage, de proximité. Moi, je pensais au titre d'Hervé Guibert, La pudeur et la pudeur. C'est un film qui ne cesse de mélanger les deux de manière absolument magistrale. Et si le père est aimant, le père est protecteur. À un moment, il résiste aux caprices de sa fille qui veut augmenter la dose hormonale. Il lui dit non, c'est dangereux. Arrête de te mettre des scotchs. On avait dit qu'on ne le faisait plus. Je t'ai acheté des sous-vêtements exprès pour. Donc, il y a aussi ce côté clinique, comment est-ce qu'on règle les problèmes, entre guillemets, évidemment, du quotidien, du concret. C'est un film bouleversant, l'acteur est sublime et Lara est une fille qui rentre tout, qui ne laisse rien passer, qui ne veut pas montrer ses faiblesses, elle est absolument bouleversante. Et c'est pour ça que la fin, moi, elle me tue, elle me ravage, parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait un moment, elle explose. Et moi, je trouve ce film juste magnifique, extraordinaire, voilà.
Sans être jamais le film sociétal qu'on pourrait craindre.
C'est pas le transgenre, ce douloureux problème, comme on disait dans les années 70.
Et c'est une drôle d'idée de le comparer à Xavier Dolan, parce que ça n'a rien à voir en termes de mise en scène. C'est juste la jeunesse.
Je l'ai lu à Cannes 20 fois.
Oui, parce qu'il a fait Laurence
Etienne. Oui, parce qu'il est très jeune. C'est proche de Gaston,
moi, je trouve, sur la sensibilité.
On est bien d'accord.
Mais il n'y a pas le côté opératique ou en phase.
Et puis rappelons quand même que ce qui nous vient de Belgique, en cinéma, depuis quelque temps, est assez formidable. Girl, donc le premier long métrage de Lucas Dont. Est-ce qu'il y a des réactions sur ce film dans le public? Non. À Cannes, toujours, mais en sélection, mais hors compétition, il y avait The House That Jack Built, la maison que Jack a construite, le nouveau film de ce fou furieux de Lars von Trier, avec Matt Dillon, Bruno Gantz, Uma Thurman, Riley Keough, le réalisateur danois, donc, nous inflige, il faut le dire, 2h35, de bouillie sanglante. Enfin, je dis 2h35, mais je dois avouer que je ne suis pas resté jusqu'au bout, qui sont découpés, donc c'est le cas de le dire, en 5 chapitres, titrés « Incidents », et on y rencontre, dans l'état de Washington, le charmant Jack, Matt Dillon, qui est un serial killer affligé apparemment des mêmes tocs que monsieur LVT, qui construit, comme le titre l'indique, sa maison sur les cadavres de ses victimes qui sont entreposées dans une chambre froide. Jack est un homme raffiné, méthodique, comme Jean-Marc, qui torture avant de tuer, qui tient ses crimes pour des œuvres d'art. Il faut dire qu'enfant, il découpait au sécateur les pattes des canards. Alors aujourd'hui, c'est plus raffiné, il enfonce les boîtes crâniennes avec un cric. Il tranche les seins des femmes, il tire les enfants à la carabine et il signe ses horreurs Monsieur Sophistication. À côté, Landru, c'est l'abbé Pierre. J'oubliais Bruno Gantz, c'est Virgile. Pardon, c'est Verge.
Verge.
et il connaît le chemin de l'enfer. Bref, c'est du Lars et du cochon. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Xavier.
Nous nous sommes tant aimés. J'étais grand fan du travail de Lars von Trier, vraiment à ses débuts.
Et presque tout le monde.
Enfin, voilà. Non, mais c'est vraiment un cinéaste et je le perds, mais complètement.
Enfin, Nymphomaniac, on l'avait quand même bien perdu aussi.
Alors, hein. Moi, je détestais pas Nymphomaniac. Ah, je trouvais qu'il y avait deux, trois choses.
Mais t'es pervers, toi.
Oui, alors déjà, je me sentais un peu moins seul, évidemment. Là, je trouve que c'est de la provoque à deux balles, de la psychanalyse qui n'en vaut pas plus. C'est abject, c'est complaisant, c'est une manière de regarder le mal au travail sans aucun point de vue, avec le seul plaisir de torturer les corps, le spectateur. Moi, ça me dérange pas, mais qu'on me raconte quelque chose. Alors, on va me dire, il est dans le mental du serial killer. D'abord, ça a été fait, donc c'est pas d'une grande originalité. La mise en scène est d'un brouillon, mais absolu. C'est ultra répétitif. On a l'impression que la seule chose qui a motivé le montage, c'est d'en remettre une couche, d'en remettre une scène supplémentaire. Moi, encore une fois, ça ne me dérange pas. On peut tout me raconter, on peut tout montrer, mais qu'on m'explique quelque chose, qu'on me donne un point de vue, même si je ne suis pas d'accord avec, ça ne me dérange pas. Moi, là, j'ai l'impression d'une visite au petit musée d'horreur qui se termine.
Si on sent que c'est une sorte d'autoportrait caricatural, bah si, c'est ça.
Je m'en cogne, oui.
Oui, mais moi aussi,
je m'en cogne, voilà.
Mais...
Non, mais un point de vue, c'est pas ça. C'est une explication, mais ça n'est pas un point de vue sur le mal, c'est pas un point de vue sur le serial killer, sur la sociologie. Il y a un film indien qui va sortir dans une quinzaine de jours qui s'appelle Mumbai Murder, justement sur la manière dont une ville indienne peut vraiment créer un serial killer à son image, labyrinthique, torsionnaire. Et ça, c'est passionnant parce que c'est un film de genre, mais qui en même temps dit quelque chose de la ville dans laquelle il se situe. Là, ça ne dit rien sur rien. Et ça se termine, je ne sais pas si tu l'as vu, mais par une espèce de clip interminable d'une demi-heure dans le 9e cercle de l'enfer de Dante, parce qu'on n'avait pas compris que Verge et Virgile, c'était les mêmes personnages, qui est d'une bêtise sans nom.
Ah non, c'est encore le mieux.
Pardon.
C'est encore le mieux, ça.
Non, mais c'est une espèce de que sais-je sur le serial killer.
Ça, je ne l'ai pas vu, c'est la fin.
Oui, c'est la fin. Alors, ici Dante, ici Thomas de Quincey, mais encore une fois, il n'en fait rien à part essayer de nous écœurer et de nous faire vomir sur nos genoux. C'est sa seule finalité.
C'est bien avant, ça.
C'est pas grand-chose.
Pierre?
Non, mais la toute fin, parce qu'en fait, c'est un fan de Tarkovsky, il lui a dédié son film, et la fin,
pauvre,
c'est évidemment
André.
Ça.
Non, mais
peut-être que certains vont vouloir avoir...
Qu'il a voulu...
Suspense, non? Non,
non, non, non. Ah bah non, parce qu'il traverse les enfers, voilà, puis il y a Bruno Ganz qui l'avait là en campagne, et puis la fin, ça dure 25 minutes hein, quand même, ou 40 minutes, enfin, je sais plus exactement. Non, mais là, au moins, il y a une espèce d'esthétisme qu'on peut ne pas aimer, mais au moins, il se passe quelque chose. Parce que pour moi, contrairement à toi, Xavier, moi, ça fait très, très, très longtemps, mais depuis Breaking the Waves, y compris, qui a été un énorme succès, j'ai toujours considéré...
Qui était la palme.
Grand Prix, je crois, un truc comme ça.
Non, c'est Dancer in the Dark.
C'est Dancer qui est
pas le mot. Dancer in the Dark, oui, il a pas. Voilà, oh là, celui-là aussi. Non, mais j'ai toujours considéré que c'était un cinéaste bête. C'est-à-dire que
y compris dans ses déclarations.
Il prend des problèmes comme ça qui croit. Alors c'est un mec en plus qui a peur de tout. Il a peur de lui, il a peur de son ombre, il a peur de prendre l'avion.
Ça pourrait être touchant.
Non
ça,
mais oui, non, mais justement ça n'est plus
de la personne.
Non, mais c'est héros aussi, tu comprends. C'est dans la Palme d'Or, l'héroïne était totalement stupide. Et là, c'est con. Enfin, l'idée vague. Bétassonne de considérer ça comme le crime comme étant des beaux-arts, mais tout le monde l'a fait, mon pauvre.
Ah oui,
Lars. Ça fait des siècles que des littéraires ou même des cinéastes ont essayé.
Et des peintres,
bien entendu.
Mais même Dan Brown l'a fait, pour tout dire. C'est vraiment tout le monde y va.
Une bêtise consternante. Et donc, bon. ça, c'est un très mauvais cinéaste et qui n'a jamais réussi un film depuis Element of Crime. Voilà.
Ah oui, donc ça fait.
C'est-à-dire le premier.
Jean-Marc, les Arancs ne sont pas défavorables cette semaine
mais
à ce film.
Pas, non, je ne le suis pas. Je trouve le film plus intéressant que vous ne dites. Déjà, il y a une dimension d'humour.
D'humour.
C'est quand même une farce, certes, extrêmement cruelle.
D'humour.
Mais moi, j'ai ri souvent. C'est-à-dire que par moment, il y a quasiment un côté Bénil.
Mais t'es complètement malade.
Bénil. J'adore la comparaison.
Moins que la
je ne la comprends pas.
Moi, je me suis emmerdé.
Il y a vraiment des moments où Madilon défile en accéléré à toute allure. Ça fait vraiment penser à du Bénil. Et je pense qu'il y a une clownerie dans la manière dont...
Il y a que ce plan-là avec un cadavre qui a été congelé dans une position un peu étrange. Et on le voit effectivement sur une façade d'immeuble en accéléré.
Même avant ce plan-là, j'avais pensé à Bénil et c'est venu conforter cette intuition que j'avais eue.
T'avais la petite musique dans la tête.
Tarkovsky, Bénil est un des modèles possibles de l'aventure. Moi, je pense vraiment qu'il y a une sorte de rire sardonique qui traverse le film et qui est vraiment prolongé par le numéro de Matt Dillon que moi je trouve éblouissant. Et je pense qu'une des forces de Lars von Trier cinéaste, c'est de savoir vraiment laisser à certains de ses acteurs la possibilité de vampiriser totalement le film. C'était le cas de Björk dans Dancer in the Dark. Et là, je trouve
pas Charlotte Gainsbourg dans La
Femme Maniaque. Mais Nicole Kidman dans Dogville, elle était impressionnante aussi. Ouais. Et là, je trouve que Matt Dillon est génial tout le temps. C'est un régal de l'observer. Je trouve qu'il fait vraiment un numéro de clown inquiétant, mais extrêmement spectaculaire. Moi, j'aime bien la manière dont le film se réfère au ciel peut attendre de Lubitsch, puisque c'est quelqu'un qui va devoir confesser aux enfers ce qu'il a fait de sa vie, et à la philanthropie, à l'humanisme de Lubitsch, il substitue un nihilisme et une négativité folle. Mais malgré tout, à mon avis, sarcastique, humoristique, et surtout, la part de bêtises et d'emphase cachée dans son rire, pour une fois, c'est vraiment au travail, et c'est une sorte d'auto-analyse où il explique que pour lui, l'art, c'est se vautrer dans le pire qu'il y a en lui, c'est l'affronter, et je trouve que cette dimension, comme ça, introspective, rend le film assez intéressant.
Mais tu t'en fous pas? Parce que
je trouve que le film est harassant, c'est très fatigant à regarder, et en même temps, c'est intrigant et assez impressionnant par moments.
Il faut quand même qu'on prévienne les auditeurs, tu nous parles de Clown et de Benny Hill, il faut quand même dire
aux gens que ce qu'on voit est extrêmement pénible, extrêmement difficile, c'est insupportable.
C'est un peu du grand guignol, tu vois.
Ah mais non, alors je suis comme Jérôme, je l'avoue bien sans aucun problème, je me suis barrée au bout d'une heure quinze. Ouais. Ça n'était plus possible. Violence de ce qu'on me montrait et dans l'ennui aussi que ça provoquait en moi. Ça peut paraître paradoxal de dire je suis terrassée par l'ennui, mais ça me dérange tellement que je sors. C'est-à-dire ça me provoque quand même quelque chose, mais alors la dimension humoristique, elle m'est passée à 3 kilomètres. Je ne comprends pas ce film, c'est-à-dire ces espèces de montages parallèles où il nous raconte ces incidents, c'est-à-dire ces crimes plus horribles les uns que les autres, parce qu'on y va, les femmes, les enfants, tout ça, ok. Et tout d'un coup, on a Glenn Gould qui joue du Bach, et avec cette espèce de parallèle sur le crime comme effectivement œuvre d'art, comme l'a dit Pierre, on a vu ça déjà 15 fois. La seule chose à la rigueur qui m'a fait un peu rire, c'est le pastiche du clip de Bob Dylan, quand il est avec des cartons devant une voiture, puisqu'il nous refait exactement le clip de Bob Dylan. Mais enfin bon, Alain Chamfort l'a fait avant lui et c'était quand même moins terrifiant à regarder. Et moi, contrairement à toi, Matt Dillon, franchement, ne m'a pas provoqué des mois de spectatrice face à un numéro d'acteur. J'ai trouvé ce film d'un ennui abyssal, intolérable.
Il n'y a rien de plus répétitif que la bouillie.
Et extrêmement prétentieux, prétentieux dans ce que ça raconte, dans ce que ça véhicule, et franchement assez détestable.
Moi, je pense que c'est faussement prétentieux et vraiment cocasse.
Enfin, la seule bonne nouvelle, c'est que ce serait peut-être le dernier film de Lars von Trier.
Ça aussi, c'est pas la première fois qu'il nous fait le coup.
Oui, la maison, il l'a déjà dit, ça.
Il le dit tout le temps.
Déjà qu'a construite. À Cannes, toujours, et on va terminer avec ce programme cannois, en compétition officielle, où il a reçu cette fois le Grand Prix et une standing ovation, c'était Capharnaüm de la Libanaise.
Non, le prix du jury.
Eh oui, c'est le prix.
C'est le prix, pas le grand prix. C'est Spike Lee, le grand prix.
Ah, c'est le prix du jury. Enfin, c'est un prix, disons, un grand prix.
C'est déjà beaucoup du jury.
Un prix que la présidente lui a remis avec beaucoup d'émotion, d'ailleurs. Donc, Capharnaüm de la Libanaise, Nadine Labaki, la réalisatrice de Caramel et de Maintenant on va où, le film, tout en flashback, s'ouvre par le procès qu'intente un adolescent dont l'avocate et précisément Nadine Labaki, à ses parents pour l'avoir mis au monde. Et ce garçon des faubourgs pauvres de Beyrouth, c'est Zayn, ou Zen, qui a 12 ans, qui a fui sa famille et qui va prendre sous son aile un petit réfugié éthiopien de 2 ans, Jonas, dont la mère a disparu. Je ne sais pas si on lui a demandé l'autorisation de le filmer si longtemps, puisque c'est quand même plus de 2 heures. Les deux enfants, d'ailleurs, sont, on peut dire, pareillement photogénique et touchant. Mais est-ce qu'il fallait à ce point abuser du tire-larme et des violons incroyablement envahissants pour nous émouvoir? Je n'en suis pas certain, mais je vous laisse me répondre à cette question. Charlotte?
C'est très compliqué. C'est-à-dire que je ne peux évidemment pas mettre en doute une seule seconde les bonnes intentions de Nadine Labaki. Mais enfin, si on faisait des bons films avec des bonnes intentions, ça se saurait. Il faut effectivement mettre de côté cette musique envahissante, larmoyante, absolument insupportable du début à la fin. La construction en flashback du film, puisque ça le démarre, comme tu le disais, par ce procès qu'il intente à ses parents, et du coup, tout son passé, ou toutes les épreuves par quoi il est passé, nous sont racontées en flashback. Ben oui, à mon sens, c'est une erreur de narration fondamentale, puisque du coup, on sait qu'il s'en sort, on sait qu'il va survivre, puisqu'on arrive à ce procès. Et est arrivé en moi un sentiment vraiment détestable, et donc j'en veux beaucoup à la réalisatrice de m'avoir fait éprouver ça. C'est que les parents de ce gamin, qui par ailleurs se révèlent incroyablement cinégénique, il est beau comme tout, il est très fort, il est très émouvant, tout ce que vous voulez. Il accuse donc ses parents de l'avoir mis au monde, et dans cette cellule familiale, c'est même pas que c'est dysfonctionnel, c'est les Thénardier à côté, c'est Walt Disney, tout est horrible, c'est une surdose de drame des frères, des sœurs, les parents sont absolument immondes, sans une once d'amour, vendent leur fille et tout ça. Et arrive ce sentiment que pendant ce procès, on se dit, mais c'est pas possible. Quand on est si pauvre, on devrait pas faire d'enfants. Moi, j'ai ressenti ça et je trouvais ça terrible en tant que spectatrice de ressentir ça face à des parents où on se dit, c'est d'une irresponsabilité totale d'avoir autant d'enfants pour ne pas pouvoir en assumer leur survie. Je parle même pas d'une éducation. Après, je trouve que au cœur du film, il y a quand même tout un passage entre ce petit garçon et un bébé où il y a des scènes quand même assez forte. On est dans un truc quasi documentaire, dans ce Beyrouth des bidonvilles, où il y a quand même des séquences, que, j'allais dire, à sauver, qui sont assez belles, mais tout est enrobé dans un sirop absolument insupportable.
Xavier.
Bah, on sait que depuis Caramel, elle fait un cinéma poisseux qui colle aux doigts, ça c'est quand même très clair, la Villa Bacchi. Elle n'a peur de rien, elle ne recule devant rien. La musique, je vois pas pourquoi on l'exclurait, je veux dire, c'est elle qui a décidé de nous l'infliger toutes les 30 secondes pour nous remettre un petit coup de marteau, tire l'arme lacrymale, et tu as raison d'être gênée, parce que que la phrase...
Et qui a fonctionné auprès du jury.
Et qui fonctionne auprès de gens que nous aimons beaucoup. Daniel Eman, que je peux citer ici ce soir, aime terriblement le film. Non, mais je ne dénonce pas, elle a le droit, évidemment, et j'aurais aimé qu'elle soit là pour le soutenir. Mais tu as raison, parce qu'une des dernières, Charlotte, ce que tu disais sur le malaise que l'on ressent, une des dernières phrases du film, c'est le gamin qui dit, à qui on demande qu'est-ce que tu veux, il dit « je veux que les gens qui n'ont rien n'aient pas d'enfants ». Donc c'est très clair, pour Nadine Labaki, les pauvres ne devraient pas faire d'enfants. Un seul, puisqu'il y a le modèle de la mère qui est toute seule avec le petit, qui est trop mignon, trop joli, trop gentil. Mais sauf qu'on sait qu'elle s'en sort, puisqu'elle elle intervient au procès dans les 10 premières minutes du film. Donc elle tue son suspense toute seule, Nadine Labaki. Mais cette idée que les pauvres, vous êtes gentils, un seul enfant, c'est déjà beaucoup pour vous et pour vos moyens, mais pas plus, parce que vous finirez par les vendre. Et il y a un problème dans le film, c'est que la mise en scène exploite les gamins tout en feignant de dénoncer l'exploitation des enfants dans ces pays-là. C'est juste un film dégueulasse.
Pierre,
bah, je suis pas loin d'être d'accord avec Xavier. C'est-à-dire que le
pas problème... mieux comme on dit au chiffre éolien.
pas mieux, oui presque. Non. Ce qui est sûr, c'est que le film est, à mon avis, se brise dès la séquence que tu as évoquée, Jérôme. C'est-à-dire le procès. C'est-à-dire que le gamin qui arrive pour dire pourquoi vous êtes là, lui demande le juge. Ouais, je sais pourquoi je suis là. Je veux attaquer un procès. Alors grand suspense pour m'avoir mis au monde. Mais à partir de là, tu sens que c'est une...
absolument.
C'est pas une phrase d'enfant. Non. C'est une phrase d'adulte qui voudrait passer pour
je
un
dirais
enfant.
Même que c'est une phrase de cinéaste qui veut avoir
mais,
un prix.
Voilà, et qui veut avoir un prix. Et donc, à partir de là...
Elle a eu raison, elle l'a eu.
Elle l'a eu, oui, mais à partir de là, tout est fini. Je veux dire qu'on ne voit plus que les beaux plans, le gamin trop joli. Et puis alors, ce qui est terrible, c'est que elle filme pendant 2 heures sur le même rythme. Je veux dire que il faut quand même pas oublier la leçon des grands anciens. Hitchcock disait par exemple que quand il y avait une scène paroxystiste, qu'il fallait une petite détente pour pouvoir repartir. Et là, c'est sur le même rythme, sur le même ton pendant 2 heures. Et alors le grand problème, c'est que je crois que beaucoup de gens aiment ça parce que...
Ah bah, je peux vous dire que là, le courrier va être...
Mais parce que on va tous
très
passer
violent pour l'écriture.
Moi,
j'en ai le placard, oui, j'ai aucun scrupule.
Moi, j'ai un grand cœur, mais alors là, justement, pas. Mais absolument. Mais je t'interdis d'en douter, enfin. Non. Mais je trouve que justement, c'est la confusion entre la générosité et il n'y a pas de mise en scène. C'est ça que je réponds par avance à toutes les lettres qui vont nous dire. Il n'y a pas de mise en scène. Une mise en scène, eh ben, c'est justement de porter un regard sur... Là, et là, il n'y a pas de regard. Il n'y a que de l'émotion.
C'est-à-dire qu'elle confond l'emphase et l'empathie. Quoi.
Voilà.
Jean-Marc.
Cette espèce d'humanisme exhibitionniste, il est 100 fois plus obscène et dérangeant que le nihilisme ironique de Lars von Trier. Il y a vraiment un... step by step. Non, mais c'est un film vraiment qui donne la nausée et qui a une indécence tout le temps.
Beaucoup nausée.
Ah, si, moi je trouve notamment la manière dont le personnage désigne des personnages donnés essentialisés comme méchants. sans du tout expliquer le contexte politique, économique, sociologique qui en fait des personnages de parents acculés à faire des choses odieuses. On a l'impression que c'est simplement parce qu'ils sont méchants. C'est effectivement les Thénardier. Et donc, opposer la mignonneté des petits-enfants avec des méchants salauds, vraiment de romans de gare, je trouve ça horrible. Et la manière dont elle ressaisit l'esthétique néo-réaliste des enfants qui marchent dans la rue avec vraiment un esthétisme publicitaire, je trouve ça affreux.
Bon, eh ben Daniel, on t'embrasse, mais c'est quand même Capharnaüm de Nadine Labaki. Peut-être des défenseurs de ce film dans le public,
pauvres.
Non, non. Même ceux qui voudraient le faire ne le feront pas, je sens. Allez, un peu de hauteur avec First Man, le premier homme sur la Lune, le film sur Neil Armstrong du franco-américain de 33 ans, Damien Chazelle. Je rappelle le réalisateur de Whiplash et de La La Land avec Ryan Gosling dans le rôle de l'astronaute qui, le premier, a posé le pied sur la Lune. C'était le 21 juillet 1969. Et dont, je vous le rappelle, le petit pas pour l'homme a été un grand bond pour l'humanité. Bref, un film de 2h20 où Spielberg d'ailleurs est crédité au générique et dont l'ouverture donne l'impression effectivement de décoller de la Terre. Ça secoue un peu, ça fait un bruit de casserole, je trouve. Bref, il déroule ensuite l'histoire de cette mission de la NASA de 61 à 69 et surtout l'histoire moins connue de cet homme, en tout cas moi je ne la connaissais pas, dont la fillette de 2 ans et demi est morte d'une tumeur au cerveau, un traumatisme enfoui derrière lequel, évidemment, pourrait se profiler l'exploit légendaire avec, dans le rôle de l'épouse délaissée du grand homme, Claire Foy. Elle va remplacer le 14 novembre Naomi Rapace dans le rôle de Lisbeth Salander du prochain Millennium. Alors, est-ce que vous avez décollé, Xavier, décollé?
Non, pas du tout.
Ah, pas du tout?
Ah,
oh,
moi, je suis resté
même
à terre.
Même au début, là?
Oh, ah non, 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 non. Non. Le côté parc d'attraction, là, comme si vous disiez, qu'est-ce que je m'en fous, alors? Oh, moi, il faut qu'on me raconte autre chose que ce genre de sensation à 2 balles. Je
ça t'a pas intéressé?
Emmerdé. Ah, alors, oui, je suis parti avant la fin. Il atterrit ou pas sur la Lune?
Oh.
Oh. Non, parce que je, non, j'ai pas vu la fin. Non mais pour nous, on peut raconter la fin avec Pierre.
Oh
là 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 là, mon Dieu. Alors, effectivement, tu l'as dit, il perd sa petite fille d'un cancer. Bon, d'accord, je suis désolé pour lui. Mais enfin, en même temps, alors dès qu'il a un problème dans le film, de quoi il se souvient? De sa petite fille en chimiothérapie, oui. Hein, la pauvre petite qui est perdue.
Et
ses
tu penses pas que, que ça a joué dans son...
Non, mais sans doute, mais ça joue aussi malheureusement dans la vie d'un plombier dingueur. Enfin, tu vois, il y a un moment, souvenez-vous qu'il est héros, le traumatisme contiendrait pratiquement tout son héroïsme et tout ça.
Vous êtes
le
sans
problème
cœur, c'est bien
du
ce que
film,
je disais, vous êtes sans
c'est
cœur.
Qu'il raconte pas grand-chose. J'ai lu dans certains journaux que c'est un grand film sur les coulisses de l'exploit. Tu parles les coulisses de l'exploit. Il y a un moment, il est dans Gemini 8. Alors tout le monde se dit, mon Dieu, il va pas s'écraser comme les 7 premiers Gemini. Bah non, il va pas s'écraser puisqu'il sera dans la prochaine mission pour la Lune. Donc tu vois, le suspense, il est quand même un peu mince, on va dire. Il y a plein de choses à raconter.
Dans Titanic aussi, tu savais la fin.
Les astronautes, tu peux inventer du romanesque, qui a été le cas. C'est pas un grand film, mais au moins tu racontes une histoire d'amour. Là, j'aurais bien aimé qu'il embrasse à pleine bouche ses coéquipiers de la mission.
Ah, c'est ça.
Mais
ah, c'est ça que tu voulais.
La promiscuité n'a rien créé de particulièrement
sensuel. Tu voulais un porno, toi.
Il y a un moment, on sent quand même que le film est basé sur la biographie officialisé et adoubé par Neil Armstrong.
C'est la vérité, hein.
Donc voilà, donc on est quand même dans les rails d'un film extrêmement prévisible, extrêmement prudent, où rien n'est dit. Et il y a un moment, quand même, où on nous raconte qu'en gros, sur Terre, les journalistes n'y croyaient pas, les Noirs, parce que c'est un Noir qui s'exprime, n'y croyaient pas, les étudiants avaient toutes les défiances du monde en se demandant pourquoi est-ce qu'on dépensait des millions pour aller sur la Lune,
ben oui,
alors qu'il y avait des problèmes aux États-Unis. C'est 3 scènes, et c'est 3 scènes inutiles, parce qu'il y a un côté christique, là. Oh, mais les pauvres, mais heureux
mais
ceux
non,
qui croient sans voir.
Mais non,
c'est insupportable. Si, ils jettent le numéro de Life. Enfin, il y a un côté, à l'époque, personne n'y croyait, c'est un héros comme le Christ qui a réussi
mais
à
le
envoyer.
Mais le film n'en fait
que
pas du tout un héros,
que,
au contraire.
Précisément, alors, c'est les éléments de critique du film qui montre cette conquête comme un impérialisme.
Ça dure 1 minute 30, tu peux pas dire que c'est une critique.
Oui, mais à mon avis, c'est quand même mis dans le film.
Ouais.
Et à la limite, étrangement, le film a été accusé aux États-Unis d'antipatriotisme parce qu'on ne le voit pas planter le drapeau américain. Et moi, je pense
sérieux
que... Oui, il y a eu
on lui a reproché
et ça me semble vraiment une critique à mon avis. Moi je ferais la critique inverse, c'est-à-dire que je pense que s'il avait été jusqu'au bout en montant ce geste, le film aurait été au bout de sa critique de la conquête de l'espace comme un impérialisme, et ce geste-là il aurait pu aussi être un geste critique, et je pense que ne pas le filmer est un problème en fait et un manque. Et là où je te rejoins, c'est que je pense que ce trauma affectif qui est la mort de sa petite fille est trop gadgetisé par le film. On y revient régulièrement, ça aurait dû être vraiment le cœur du film, et je pense que Gravity réussissait beaucoup mieux ça. Comment il y avait quelque chose d'intime qui déterminait toute
la vraie histoire, la survie, c'est le sacrifice de l'épouse. Et c'est bouleversant et c'est pas écrit.
Voilà. Et mais malgré tout,
là, elle je pense que elle est vraiment là l'épouse.
Non.
C'est pas vrai, Xavier.
Non, elle est
en mère sacrificielle
qui fait la cuisine, le ménage pendant que monsieur s'envoie en l'air.
Non, mais malgré tout, d'une part, il y a quand même une maîtrise technique, comme toujours chez lui, un talent de fabrication d'images qui est un peu froid, un peu vain, mais par moments assez impressionnant. Et je trouve que la scène d'alunissage à la fin, il y a quand même de très très beaux moments de cinéma.
Oui, c'est beau. Il n'y a pas de suspense, mais c'est beau.
Oui, mais bon.
Mais c'est beau et c'est sensoriel. Allez, enfin, moi je trouve qu'il y a quand même un travail sur le son. Oui.
Ah oui.
Mais vraiment, que ce soit l'alunissage ou même la traversée de l'atmosphère, je repensais un peu à tout le début de Dunkerque de Nolan, qui avait tout un travail sur le son très particulier, où on était vraiment dans la tête des soldats avec tous les sons assourdis. Et là, ça m'a fait le même effet. C'est-à-dire que moi, j'avais vraiment des sentiments, des sensations presque de claustrophobie quand je suis dans sa petite capsule avec lui, ou au contraire de choses totalement miraculeuses quand il arrive sur la Lune, où tout d'un coup le son s'arrête. D'ailleurs, il n'y a plus de son quand il sort de la capsule. J'ai trouvé ça sublime. Et là où je ne comprends pas du tout Xavier, c'est que je trouve au contraire que cette histoire de cette petite fille, même si effectivement on peut taxer ça de un peu larmoyant ou tout ça, je trouve dessine tout à fait le parcours de cet homme qui est déjà parti des siens. C'est-à-dire, il n'est pas très sympathique, hein, il ne nous le montre pas du tout comme un héros. Le mec, il n'est pas sympa avec sa femme, il n'est pas sympa avec ses deux autres fils parce qu'il a deux autres enfants. Il est déjà dans son monde, il est déjà ailleurs, il n'est plus bien avec les hommes sur Terre, et donc il a cette obsession.
C'est quand même tiré de la biographie officielle.
Bien sûr,
cette idée-là, c'est un homme qui cherche un tombeau pour mettre son chagrin. Je pense qu'elle est,
c'est quand même dissous dans une
dramaturgie trop dilatée de 2h30, tous les épisodes successifs sont anecdotiques.
Les gens qui ont perdu un enfant devaient aller sur la Lune, mes enfants, ce serait le métro à 6h.
Oh, mais non, mais.
On y serait tous, quoi.
En plus, il y a quand même un travail sur l'image en pellicule qui est magnifique.
Mais de toute façon, allez, Pierre.
Mais le réalisateur, depuis Whiplash, on le sait, c'est un sadomaso. C'est-à-dire que c'est un sadique. Non, mais c'est ça. Dans Whiplash, c'était ça.
C'est pas dans La Land.
Non, pas dans La Land, mais que j'aime pas, que j'aime beaucoup moins, justement.
Tu peux pas te baser sur un seul film, Pierre, pour déterminer un réalisateur.
Qui était le premier.
Mais attends, c'est pas un défaut. Je dis simplement que dans Whiplash, il y avait ça. Ces rapports extrêmement forts, extrêmement sadiques entre, dans le jazz, je retrouve cette dureté. Et je te rejoins en partie. C'est-à-dire que, en effet, il y a la première partie. Enfin, moi, j'ai été quand même très impressionné. Les 25 premières minutes où on est à l'intérieur de la capsule, où on ressent exactement ce qui se passe, c'est quand même très impressionnant. Ouais. Quand il arrive sur la Lune, c'est formidable. Alors, je suis d'accord que moi, la petite fille morte revient un petit peu trop souvent. Mais ce qui est intéressant, c'est la façon dont il dirige Ryan Gosling, c'est-à-dire comme, en effet, quelqu'un qui est en dehors de tout. Il a déjà une carapace, il est dans son scaphandre.
Il est déjà parti,
il ne voit pas sa femme,
il
ne voit pas
ses enfants. Même, Ryan Gosling, en même temps.
Il joue de ça, et je trouve que, justement, c'est un film sur l'intériorité de quelqu'un qui est déjà ailleurs et qui va s'en aller encore plus loin. Mais c'est ça, le film. Et c'est pour ça que je parle de dureté et de sadomasochisme un tout petit peu dans la mise en scène.
First Man, premier homme sur la Lune de Damien Chazelle. Et on va aller maintenant, si vous le voulez bien, un peu vite pour évoquer les trois derniers films. D'abord, L'amour flou, le film d'un couple d'acteurs qui se sépare, Roman Boringer, on ne la présente plus. Philippe Rebaud, qu'on a vu dans plein de films, mais dont, en tout cas, ce qui me concerne, j'ai toujours oublié le nom. C'est-à-dire que le visage, oui, le nom, j'avais oublié. Bref, ils ont deux enfants de 10 et 5 ans et décident donc de vivre chacun sa vie. Et ils quittent leur maison commune et s'installent dans un immeuble moderne. Très bien d'ailleurs, deux appartements adjacents reliés par une chambre sas qui permettra aux enfants de passer de l'un à l'autre. Tout est vrai. Et en même temps, ça n'est pas une autofiction filmée, puisque Roman Boringer et Philippe Rebaud ont fait le choix de tirer leur film du côté de la comédie. Moi, j'aime bien le moment où, notamment, Philippe drague Clémentine Autain, qui fait sa première apparition de comédienne dans un film, et où leur vrai chien, qui a incroyablement la tête de Woody Allen, semble être le seul dépressif de l'affaire. À certains ont reproché à ce film d'être impudique. Je trouve que c'est la manière dont il transforme une histoire vraie en presque conte ou qui en fait un film singulier. Pierre.
Ah ben moi je me sens totalement incompétent parce que je l'ai vu dans une salle qui était à moitié, comme moi, absolument en dehors, et en moitié en riant, où chacun riait à chaque réplique. Donc,
je riais de quoi de...
Ah, bah, du film, c'était à chaque réplique.
De plaisir.
Oui, tout à fait positif. J'aime beaucoup Romane Bohringer, et Philippe Rebaud, je le considère comme un des grands second rôles comiques de,
donc, oui, j'ai même troisième rôle, d'ailleurs.
Oui, mais il est magnifique. Là, je ne peux pas, c'est pour moi la conception du cinéma au degré zéro. C'est-à-dire que forcément, c'est de l'autofiction. Alors, c'est complètement...
Pas simplement,
mais complètement quand même. Le chien, le machin, le truc. Je trouve ça d'une nullité. En plus, presque prétentieux dans le sens. La scène où Romane Bohringer arrive avec une copine qui veut être enceinte et justement, elle dit, ah, ben, elle les a traités de PD un tout petit peu avant. Elle va le présenter aux deux garçons qui sont à côté... dans la chambre, dans la vie.
Pourquoi c'est prétentieux ?
Bon, c'est con. Non, mais d'accord, c'est aussi... Non, écoute...
Il y a aussi la scène où elle se met au lit avec une fille.
Oui, mais c'est très bien. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, je m'en fous. C'est pour ça que je suis incompétent. J'ai vu des gens hurler de rire, donc je pense que ça doit plaire beaucoup. Pour moi, c'est le degré zéro du cinéma.
Télérama, voilà. D'ailleurs, dit tyrambique pour le film.
Mais Télérama Jean-Marc a tout à fait raison, sans doute,
d'être dithyrambique. Oui, moi, j'ai pas hurlé de rire, mais j'étais quand même plutôt charmé par le film. On pourrait le voir en ignorant que c'est inspiré de la vraie vie de Philippe Rebaud et Romane Bohringer. Je trouve qu'il n'y a aucune impudeur et
non,
que c'est pas du tout un journal, mais c'est vraiment
ça,
stylisé comme une fiction et comme une comédie presque classique américaine, et j'aime beaucoup l'usage qui est fait de l'espace et du lieu. La manière dont est filmé ce double appartement, qui est un peu le studio de lui, et un peu l'appartement avec les enfants d'Al, ou plutôt les enfants sont entre les deux appartements, et il filme l'encombrement de ça. Il y a plein de situations cocasses uniquement liées à la
avec
gestion du décor.
Les voisins gays du nouvel immeuble.
Tout ce qui est déplacement burlesque dans cet appartement est assez réussi et ça repose beaucoup sur le charme et la sympathie vraiment que le film laisse affleurer des deux personnages. Moi, je trouve ça assez modeste, contrairement à ce que disait Pierre, pas du tout prétentieux, un peu anodin, mais vraiment très sympathique.
Bah oui, ça repose sur leur charme et c'est pas rien quand même. C'est-à-dire, enfin, moi, je trouve qu'on passe un excellent moment et rarement j'avais été aussi réjouie par un film de rupture et de séparation. Alors, c'est sûr que c'est pas une comédie dans laquelle on rit franchement, mais en même temps, il y a de la fantaisie, c'est un peu foutraque, c'est chaotique, un peu à l'image de Philippe Rebaud, de ce qu'il semble être dans la vie. Et en même temps, le film, il avance, il sait très bien où il va. C'est-à-dire que la fiction s'immisce petit à petit à travers des personnages secondaires, que ce soit les voisins, mais il y a aussi les psys, les parents, les copains, Reda Kateb, qui joue quand même un fou des chiens, qui est quand même très très drôle. Donc il y a quand même un côté assez écrit au film. Et moi, je trouve ça... j'aime cet esprit un peu libertaire, léger et fantaisiste de ce couple qui invente une nouvelle façon de vivre et de se séparer.
Xavier. Alors, si Philippe Rebaud drague Clémentine Autain, c'est qu'il était amoureux comme moi de Dominique Lafin, sa maman. Voilà. Donc, il a fait venir la fille d'une comédienne qu'il aimait beaucoup quand il était jeune. Donc, toujours, je trouve que c'est un magnifique hommage à Dominique Lafin. Voilà. Son chien, qui est une chienne, ça n'est pas dans le plan final. Lady, je tiens à le dire, le dernier plan, c'est pas sa chienne. Il en est désespéré, mais elle ne pouvait pas mettre au bas comme dans le film. Donc ils ont cherché.
Mais là, pour le coup, on s'en fout.
Ah, mais non, parce que c'est rigolo. Parce qu'il y a un moment.
Mais c'est ça.
Parce que ça signifie qu'il y a un moment.
Il est en train de faire la critique du cinéma, il m'explique que c'est pas le vrai chien.
Mais ça signifie qu'il y a un moment, la réalité, elle est distordue par l'humour, par l'envie de tourner des personnages. Les deux Auréniens, les deux voisins, ils existent vraiment. Ils habitent vraiment en face de chez Romane Bohringer. Et ils gardent les enfants pendant la promo du film. Donc il y a une manière de raconter cette histoire qui est vraie, mais en la faussant constamment à travers des petits inserts. Reda Kateb, c'est pas lui qu'ils ont engagé, c'est le chien de Reda Kateb qui voulait faire tourner. Reda Kateb est venu parce qu'il est le maître du chien, le vrai maître du chien dans la vie. Et donc on a créé un personnage autour de ça. Mais non, mais ça signifie que c'est pas du tout de l'autofiction, c'est extrêmement drôle, c'est un bordel joyeusement organisé d'une générosité absolue qui va chercher des idées de cinéma, des idées de situation.
Aucune idée de cinéma.
Mais si, Jean-Marc l'a très bien dit, il y a un espace, il y a un espace de jeu, c'est leur vrai espace.
Et tout, mais il n'y a pas d'idée de cinéma.
Il y a des idées de cinéma, il y a des idées de situation, il y a des idées de
champ
comédie.
Champ contre champ,
c'est pas vrai, Pierre, c'est pas vrai. Il y a de l'humour dans des plans, la façon dont sont positionnés des plantes vertes ou des cactus quand elles sont à poil, par exemple.
Mais non. Il n'y a pas une mise en scène, enfin.
Mais si, il y a que tu ne veuilles pas le voir, c'est vraiment le concède.
L'amour flou, Romane Bohringer. Et Philippe Rebaud, allez, quelques mots à propos du film de Michel Blanc, 16 ans après, Embrassez qui vous voudrez, l'adaptation donc de Vacances anglaises de Connolly, Michel Blanc, rempli avec Voyez comme on danse, ça dure 1h28, là au moins c'est top chrono, on retrouve Carole Bouquet, Karine Viard, Charlotte Rampling, Jacques Dutronc, Michel Blanc. Dutronc, c'est le mari de Charlotte Rampling qui disparaît. Carole Bouquet est végane. Elle trouve son nouveau mec et Jean-Paul Rouve. C'est bizarre. Très parano. Karine Viard est veuve. Il y a une fille de 17 ans qui attend un enfant du fils de Jean-Paul Rouve. J'en oublie. Peu importe. Le propos n'a pas vraiment changé depuis le premier film. C'est dur d'être une femme et c'est nul d'être un homme. Quelques mots, Pierre?
Ben, j'ai entendu tellement mal de ce film que j'ai presque envie juste de le défendre un peu sur...
Après l'amour flou.
Sur quelques personnages. Ce qu'il a, Jean-Paul Rouve, par exemple, en faux parano, etc., est très drôle. Ce qu'il a voulu faire, et à mon avis, il aurait peut-être pas dû le faire, il a voulu encore caricaturer davantage les personnages d'il y a 10 ans. Donc il en fait, en effet, des caricatures à la Feydeau.
C'est 10 ans après.
C'est Feydeau. C'est-à-dire, c'est un vaudeville. Je trouve, c'est le dindon. C'est le dindon de la farce. C'est-à-dire que tout ce qui lui arrive lui retombe sur le dos. C'est pas plus bête qu'autre chose.
C'est un vieux vaudeville, quand même.
Non, mais c'est pas un très grand film. Mais je trouve que je préfère ça, pardon, au charme et à l'invention de l'amour flou.
La mise en scène de Michel Blanc, pas de chant contre chant, des mouvements extraordinaires.
Au moins il y a des dialogues, au moins c'est écrit, ça fait plaisir d'entendre un dialogue écrit aussi.
Xavier ?
Bah oui, ça fait peut-être plaisir d'entendre parfois un dialogue écrit. Je pense que Charlotte Rampling a réécrit ses dialogues parce que c'est les seuls un peu savoureux du film. Effectivement, quand elle dit à Karine Viard « Ne me remercie pas deux fois, c'est so working class », ça, effectivement, c'est très drôle. Le problème, c'est qu'il a des personnages qu'il n'a pas su les faire vieillir. Il dit partout qu'il n'a pas revu le premier. Il aurait mieux fait de le faire parce que peut-être il n'aurait pas fait sa suite et que Connelly n'a absolument pas participé à ce truc-là. Donc, il y a des personnages, il y a des situations et au moment de se dire « Il faudrait peut-être une histoire, un scénario », autre chose que ces portes qui claquent et que cette révélation qui arrive au bout d'une heure et dont on se fout, mais alors complètement, et ben on se dit que ça filme pour rien. Mais si tu y vois de la mise en scène, au contraire de l'amour flou, Pierre, je vais venir au cinéma avec
plus,
toi qui va m'enseigner mon métier.
Il y en a plus que dans l'amour flou, mais
non,
c'est pas une grande mise en scène,
Pierre,
ça c'est sûr.
Je veux dire que tu sois de mauvaise foi, mais pas à ce point.
Un mot de Charlotte.
C'est un peu triste parce que c'est quand même que des bons comédiens qu'on se réjouit de voir, et même le couple
mais
du
tout
tronc
tout le monde
rempli,
a des problèmes de femme de moi.
Voilà,
hein,
dans
monde,
une petite caravane avec des poules, c'est drôle. Mais là, j'étais assez consternée, moi, par le film. Alors c'est vrai qu'il y a quelques dialogues parfois qui fonctionnent, mais alors tout repose sur l'abattage des comédiens. Karine Viard, elle en a pour tout le monde, mais c'est presque trop. C'est-à-dire que là, ça devient une auto-caricature de Karine Viard. On n'en peut plus dans ce rôle-là. Et je suis très étonnée parce que je trouve que Michel Blanc, à des moments, on a l'impression qu'il voudrait emmener son film un peu ailleurs, vers quelque chose, justement, peut-être d'un peu plus libre, ou je sais pas. Et finalement, tout retombe dans un truc de terriblement bourgeois, convenu. Il y va pas. Je sais pas. Il a peur, ou des personnages, ou des situations. Mais ça reste quand même...
Jean-Marc.
Oui, non, vraiment, assez je suis d'accord sur ce dernier point. Il y a des espèces de velléités un peu libertaires avec un personnage transgenre, notamment.
Oui, mais il en fait
rien. Il en fait des blagues extrêmement grossières pour le personnage. Et finalement, on retombe sur quelque chose d'assez beauf. Alors qu'au départ, il aimerait être un grand libertin et un grand hédoniste. Et finalement, le film réintègre toujours quelque chose d'assez moral et d'assez normativement moral que je trouve assez désagréable. Et puis surtout, il n'y a que de la mécanique. C'est-à-dire que c'est une mécanique boulevardière très dévitalisée. Comme si vraiment l'allant, le cœur n'y était plus du tout. Et le film est assez déprimant.
C'est donc, voyez comme on danse, pardon.
Pas les chiffres, ils ne sont pas déprimants.
Michel Blanc.
Très bien.
Et vraiment, 3 minutes, le film de Mélanie Laurent, Galveston, qui était au festival d'ailleurs de Deauville. Film très américain, Ben Foster, Ellie Fanning, Lily Reinhardt. Et c'est l'adaptation du roman de Nick Pizzolatto, qui signe d'ailleurs le scénario. Et c'est une sorte de road movie depuis la Nouvelle-Orléans. En compagnie d'un petit truand qui est joué justement par Ben Foster. Je n'en dis pas plus, faute de temps, Jean-Marc.
C'est un film extrêmement fabriqué, qui est fabriqué avec une certaine compétence technique. Le travail du chef-op est par moments assez impressionnant. Et en même temps, on a le sentiment que tout a été choisi sur catalogue, que c'est vraiment la lumière standard d'un thriller un peu gothique. Et tout ça est très désinvesti. Elle pousse toujours le curseur sur la direction d'acteur pour être très intense tout le temps. Et le film donne un sentiment de piétinement qui est...
Des dialogues incroyablement explicatifs. C'est-à-dire on sait exactement où on va et comment, Pierre.
Oui, mais elle avait fait 2 films qui étaient pas terribles, dont l'un qui s'appelait Plongée. Là, il me semble qu'il y a quand même une atmosphère, une ambiance et surtout un comédien que je trouve absolument formidable, c'est Ben Foster, qui vraiment rappelle les grands héros noirs hollywoodiens perdants, malades, qui font une... Donc, c'est bien meilleur que ce que Mélanie Laurent a fait jusqu'à présent.
Bah, pas si on compte ses premiers films, Pierre, c'est pas vrai. Je trouve que Les Adoptés au Respire, il y avait quand même quelque chose d'assez singulier, de personnel, que je ne retrouve pas là. C'est-à-dire, c'est un film de commande et ça se voit. Donc, c'est pas mal fichu, mais on a l'impression d'avoir vu ça un peu mille fois,
ah,
quand
oui,
même.
Oui, oui, mais c'est mieux fichu que d'habitude.
Le petit polar américain qu'on a vu 15 fois, qui paraît très convenu, avec un scénario extrêmement prévisible.
Et une réalisation un peu chichiteuse.
On ne va pas l'enterrer, le public l'a fait à notre place. De toute façon, ça ne marche absolument pas. Donc voilà, c'est un film pour rien.
Ah, ça ne marche pas.
Ah non, pas du tout, mais pas du tout. Et c'est un film pour rien.
Pourquoi on en parle alors ?
Pourquoi ? Bah, parce que tu l'as inscrit au programme. et que nous sommes de bons élèves et que nous allons voir les films. Elle aurait pu faire le film depuis une table de montage en prenant des extraits d'autres films ou d'autres séries télé. Vrai. Et on aurait eu exactement la même chose. Un peu de photo-montage pour que les comédiens se ressemblent. Et franchement, ce n'était pas la peine de s'emmerder à aller tourner le film. Il suffit de faire un copier. Pied collé, on aurait eu le même résultat.
Bien. Eh ben, c'est ce qui reste de Galveston, de Mélanie Laurent. Allez, on a le temps de conseiller un film, une série, un... ce que vous voulez.
L'album de Mélanie
Une rétrospective, une pizzeria. Pierrot.
Alors, c'est un DVD qui est paru dans Atelier d'Images. Il est paru il y a quelques semaines, mais j'ai découvert il y a quelques jours. C'est la vie privée de Sherlock Holmes de Billy Wilder qui est extrêmement connu. Mais là, ce qui est formidable, c'est le bonus. Parce que dans le bonus, ils ont reconstitué toutes les scènes. Parce que c'est un film qui a été mutilé. Je veux dire qu'il y a plein de...
Il a été mutilé.
Parce que le studio était très mécontent de Billy Wilder et des films qu'il... Enfin, des scènes qu'il avait tournées. Le film devait durer 3 heures. Il en a coupé 1h15. Il y a des rushs et des scènes qui étaient entièrement détruites. Et donc là, dans ce bonus, ce qui est formidable et que moi, je vois pour la première fois, c'est qu'on reconstitue à l'aide du scénario, à l'aide de certaines photos, à l'aide de certaines séquences qui ont été tournées mais pas montées, bah, le film tel qu'il l'aurait voulu être. Et ça, pour un cinéphile, un fan de Billy Wilder, et surtout un fan de Billy Wilder et fan de la vie privée de Sherlock Holmes, c'est absolument formidable.
Le conseil de Jean-Marc.
Alors moi, c'est une exposition de photographies d'un cinéaste, pas très connu qui s'appelle Guy Gilles, qui a fait des films magnifiques et hélas peu vus comme Absence répétée dans les années 60-70. Et il faisait aussi de la photographie, ce que j'ignorais. Et il y a une galerie à Paris, la galerie Patrick Gutnecht, c'est compliqué à prononcer, dans le 3e arrondissement, qui montre ses photos, des photos réalisées sur 25 ans où il photographiait ses proches, ses voyages et toutes les qualités sensibles, très très prégnantes de son cinéma existe aussi très fortement dans sa photographie.
Mon conseil, c'est un livre qui m'a beaucoup amusé. Ça s'appelle « Les pépites de la critique de cinéma » de Laurent Bourdon. C'est chez Duno. Et évidemment, pourquoi ? Parce que le masque et la plume est à la fête. Alors, vous y êtes tous, hein, les uns et les autres. Quelques verbatimes, évidemment, qui m'ont fait rire à la relecture. C'est quand Xavier parle de Joaquin Phoenix, par exemple. Ce n'est plus l'acteur studio. C'est l'acteur studio. Neuf, sur Valérian, de Luc Besson. Un film, David, intersidéral. Sorti aux États-Unis avant la France. Moi, je suis sorti du film avant les Américains. Ou le même Eric sur Les Tuches 3, toujours au masque et la plume. Je n'avais pas vu les deux premiers, alors j'ai du mal à resituer l'œuvre dans son contexte. Voilà, tout ça. Voilà, allez, c'est chez Duno. Voilà, le conseil de Charlotte.
Un documentaire qui vient de sortir et qui est à la fois très beau, très important, me semble-t-il. C'est le procès contre Mandela et les autres qui est co-réalisé par un journaliste, Nicolas Champeau, et un réalisateur et chef opérateur, Gilles Porte. En 63, quand il y a eu le procès contre Mandela et ses camarades, le procès n'était pas filmé. En revanche, il a été enregistré. Il se trouve qu'on a retrouvé récemment les plus de 200 heures d'enregistrement du procès et les réalisateurs sont partis à la rencontre, donc c'est un peu une course contre la montre parce qu'ils sont encore vivants la plupart, même les avocats ou les épouses de tous les protagonistes. C'est même la dernière interview de Winnie Mandela qui réécoute en direct ces enregistrements. C'est très émouvant, on apprend beaucoup et l'image manquante du procès est remplacée par des illustrations en noir et blanc, donc c'est à moitié un film d'animation de Heard et c'est très beau et très fort.
Xavier.
Moi, je vais recommander le Dilili à Paris, le nouveau film de Michel Oslo, le papa de Kirikou, un film d'animation absolument magnifique qui raconte une petite fille métisse dans le Paris de 1910-1920. La Tour Eiffel est encore en construction et qui mène l'enquête puisque des petites fillettes comme elle sont kidnappées et disparaissent. Et pour mener l'enquête, elle va rencontrer les grands penseurs et les grandes penseuses de cette époque, de Colette à Marcel Proust. C'est un film qui aurait pu être un catalogue. C'est un film joyeux. C'est un film magnifique.
Aussi beau que Kirikou.
a aussi beau et flamboyant que même Azur et Asmar, qui est pour moi le plus grand film de Michel Houellebecq à ce jour. C'est un film ludique, c'est un film intelligent, c'est un film féministe. Bref, ça nous manque des films comme ça.
Tous ces conseils, vous les trouvez, comme chaque semaine, sur le site du Masque et de la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Charlotte Lipinska, Xavier Le Herpeur, Pierre Murat et Jean-Marc Lalanne pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin, avec la collaboration de Lisiane Selam. Ce soir, au Charles Trenet à la technique, et je les remercie, Guillaume Ledu, Valentin Azan, Zielinski, ainsi que Tar Bouklifa. La réalisation était signé Xavier Pestugia. Notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, eh bien, il aura lieu le mercredi 31 octobre au studio Charles Trenet pour deux émissions, l'une consacrée au théâtre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parlera de livres. Je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.